Voilà, j'ai intitulé mon message « Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et je vous invite à prendre dans le livre des Actes, le chapitre 8, à partir du verset 5. Alors, les disciples ont été dispersés suite à la persécution. Et puis, un des apôtres, Philippe, donc arrive en Samarie pour évangéliser donc cette contrée. Et va s'en suivre des baptêmes. Donc je vous invite à prendre dans Acte 8, à partir du verset 5, je vais lire en deux temps. Et premièrement, je lirai jusqu'au verset 25. Et deuxième partie pour plus tard. Donc Acte 8, à partir du verset 5. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta mauvaise pensée et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Donc, amen jusqu'ici la parole de Dieu pour le moment. La vérité qui ressort de ce passage et de ce qui va suivre, du passage qui va suivre après, c'est que le baptême est le signe extérieur d'un changement de cœur intérieur, et aussi de l'engagement à servir le Seigneur. Donc, le baptême est le signe extérieur d'un changement intérieur du cœur et de l'engagement à servir le Seigneur. Premièrement, eh bien, voyons que, mon premier point, le baptême ne change pas le cœur. Le baptême ne change pas le cœur. Alors, voilà donc Philippe, parti évangéliser en Samarie, et il a obéi en ce sens, en cela au Seigneur, Jésus qui avait dit aux apôtres, avant de remonter au ciel, il avait dit en Actes, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le temps est arrivé. La parole de Dieu, donc, commence à se répandre au-delà de Jérusalem. Ça, la Samarie, donc. Et Philippe, l'un des douze apôtres, va prêcher le Christ en Samarie et va prêcher devant ces Samaritains qui n'ont pas bonne presse pour les Juifs. Et donc le texte nous dit que beaucoup s'attachaient à ce qu'il disait. Beaucoup ont cru et par voie de fait, ils se sont fait baptiser. Ils se sont fait baptiser. Et aussi, une des raisons pour lesquelles ils se sont fait baptiser, c'est qu'ils ont vu les miracles que l'apôtre Philippe avait fait, des guérisons, des exorcismes, il avait chassé des démons. Alors soyons clairs déjà d'emblée, les miracles ne sont pas des buts en soi. Les miracles, ils ont existé, ils existent encore. Le Seigneur n'est pas limité, mais ce n'est pas un but en soi. Le miracle, en tout cas à l'époque, c'était un signe que Dieu était à l'œuvre par les apôtres. Les miracles étaient là seulement pour confirmer le témoignage des apôtres qui ont connu Jésus en chair. Et toujours la prédication devait précéder les miracles. C'était jamais l'inverse. Sinon, ça ressemblait à une mise en scène. Non, c'était d'abord la prédication de la parole de Dieu, et ensuite, si Dieu le voulait, il faisait des miracles. Alors, nous voyons qu'avant de s'attacher à la prédication de Philippe, il est question là d'un certain Simon le magicien. Et les gens, avant Philippe, s'étaient attachés à ce Simon de par les choses surnaturelles qu'il faisait. Ils étaient habitués à voir des choses surnaturelles. Verset 11, je relis le verset 11. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Et Simon le magicien, se disait lui-même quelqu'un de grand. Verset 9. Les gens, comme quoi c'est possible de se tromper, les gens croyaient que son pouvoir lui venait de Dieu, alors que c'était l'inverse. Ses pouvoirs lui venaient de Satan, du diable. Et puis voilà que, verset 13, je vous relis le verset 13, voilà que Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Simon le magicien, il a cru, et il s'est fait baptiser. Alors on pourrait se dire, c'est bon, il a tout compris. Non, attention, n'allons pas trop vite. Son histoire, l'histoire de Simon, nous met en garde contre une conception incomplète, voire fausse, du baptême. Et dans ce qui va suivre, on peut se poser la question. On ne le voit pas encore, enfin, on l'a vu dans le texte. Est-ce que Philippe n'est pas allé un peu trop vite pour le baptiser? L'histoire du baptême, l'histoire qui... Enfin, je vais approfondir ça après. Entre-temps, que nous dit le texte? Les apôtres restés à Jérusalem, ils apprennent, les autres apôtres, ils apprennent que les Samaritains, ils ont cru eux aussi à la parole de Dieu. Ils ont cru et ils se sont fait baptiser. Mais le texte nous dit qu'ils s'étaient fait baptiser seulement au nom du Seigneur Jésus. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'avait dit Jésus à ses apôtres en Matthieu 28, 19, la recommandation qu'il avait donnée à ses apôtres. Je vous lis Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or là, ils avaient été baptisés seulement au nom du Seigneur Jésus, nous dit le texte. Alors, que se passe-t-il? Les autres apôtres, donc à Jérusalem, envoyèrent Pierre et Jean. Pourquoi faire? Pour prier pour les Samaritains et pour leur imposer les mains aux nouveaux baptisés pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, il y a une remarque là que je voudrais souligner. Jean a été envoyé donc vers les Samaritains pour les prier pour eux et pour leur imposer les mains. Et si vous vous rappelez, en présence de Jésus, quand Jésus était en chair et que Jean était avec lui, Jean avait autrefois demandé que le feu du ciel descende sur les Samaritains qui n'avaient pas cru, qui refusaient d'accueillir Jésus. C'est en Luc 9, 51 et 55. Quel changement ici! Quel changement! Quel changement chez Jean, et aussi chez tout à chacun qui croit, quel changement opéré par le Saint-Esprit! En vérité, l'Esprit Saint transforme de fond en comble des mobiles du cœur. Parce que l'apôtre Jean s'est opposé aux Samaritains, il vient maintenant prier pour eux et leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, l'imposition des mains. Soyons clairs aussi. De même que les miracles ne sont plus nécessaires aujourd'hui pour que quelqu'un croie en Jésus, il n'est plus nécessaire d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'est plus nécessaire d'imposer les mains à quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Les apôtres sont morts depuis longtemps. Les apôtres, c'était ceux qui avaient connu Jésus en chair. Mais aujourd'hui, et c'est tellement, gloire à Dieu, c'est tellement plus simple, aujourd'hui, quelqu'un qui se repent et qui demande pardon à Dieu pour ses péchés et qui croit en Jésus comme son sauveur, ça suffit pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il le reçoit, le Saint-Esprit, de la part de Dieu. Il est question de miracles dans ce passage, mais le plus grand miracle, c'est lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur pour être sauvé, pour le recevoir. Ça, c'est le plus grand miracle quand quelqu'un se convertit. S'il y en a qui veulent voir des miracles. Celui-là, il se produit d'abord dans le cœur, il n'est pas encore visible, hein. pas tout de suite en tout cas, mais pas toujours visible. Pierre, l'apôtre Pierre avait dit à Jérusalem, il avait dit aux Juifs en Actes 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Suite à cela, suite à la prédication de Pierre, il y a eu 3000 personnes qui se sont faites baptiser. Suite à la prédication de Pierre. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Alors, Simon le magicien revient à lui. Simon l'a cru, il s'est fait baptiser, mais clairement, il ne s'était pas repenti. Il ne s'était pas repenti de sa magie. Parce que, avec la foi, il faut aussi se repentir. Ce que, visiblement, Simon n'avait pas fait. La repentance, c'est quoi ? C'est sortir de sa mauvaise voie, c'est faire demi-tour. On a compris que ce qu'on fait est mal quand on désobéit à Dieu. Donc on fait demi-tour, on s'arrête, on entend l'évangile et on se tourne vers le Seigneur pour le suivre. Simon n'avait pas compris, en tout cas, que Dieu donne le Saint-Esprit gratuitement à tout un chacun qui se repent et qui croit en Jésus. Tout croyant. Et vous avez remarqué, Simon ne demande pas, il ne demande pas le Saint-Esprit pour lui-même. Pour lui, c'est un pouvoir, comme les autres pouvoirs qu'il a. Il ne demande pas le Saint-Esprit pour lui-même pour accomplir le bien et faire ce qui est juste. Mais il propose d'acheter le Saint-Esprit aux autres apôtres pour pouvoir le communiquer et ce qui pourrait lui rapporter gros, pensa-t-il. Il prenait ça comme une autre pratique magique. Donc il demande ce pouvoir de le communiquer comme il a vu Pierre et Jean imposer les mains. Il veut aussi avoir ce pouvoir. En fait, Simon le magicien, ça n'est qu'un imposteur. Il est rempli d'amertume, nous dit le texte. Il est avide de notoriété. Et il est avide de prestige. Et il craint même de perdre son influence quand il voit arriver Philippe. Et ça, c'est suffisant quand il voit arriver, Philippe, oui. Et c'est suffisant pour mettre Pierre en colère, versets 20 et 23. Là, il a affaire à Pierre. Parce que nous ne sommes pas rachetés par de l'argent ou de l'or, mais nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus. Le prix payé est suffisant. Voir 1 Pierre 1, 18 et 19. Et aussi, vous avez remarqué qu'il montre bien le cœur de Simon le magicien. Simon ne prie pas lui-même. Il demande aux autres apôtres de prier pour lui, de le faire à sa place. Il ne prie pas lui-même, alors qu'il aurait pu le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le baptême suite à ce passage ? Il y a une progression avec le même personnage, c'est Philippe, hein, qui est le fil conducteur de tout ce passage-là. Qu'est-ce qu'on apprend sur le baptême ? Eh bien, clairement, le baptême n'est pas une pratique magique. Et clairement, le baptême n'enlève pas le péché, ne change pas le cœur. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. C'est pas ça qui nous réconcilie avec Dieu. Alors, c'est quoi le baptême ? Replaçons-nous dans le contexte historique de ce texte. Ici, on est au début de l'Église, l'Église primitive qui prend naissance. Et là, il y avait 3000 personnes qui se sont converties. Les gens se convertissaient en masse, avec quelques dizaines de disciples. En masse. Peut-être quelques centaines, oui. Et là, il y a cette expression, c'était d'un commun accord que les gens s'attachaient à la prédication de Philippe. Donc, ils se mettaient d'accord entre eux. Mais est-ce qu'ils avaient la conviction personnelle dans leur cœur que c'était la vérité, ce que disait Philippe ? Ils s'attachaient à ce que disait Philippe d'un commun accord, verset 6. Ils étaient aussi impressionnés à la vue des miracles qu'ils faisaient. Mais vous avez remarqué, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans ce texte-là. Pour quelqu'un qui veut se faire baptiser. Le texte ne mentionne pas, jusqu'ici en tout cas, de confession orale de la part de celui ou celle qui veut se faire baptiser. Il n'est pas ici question, Il n'est pas question ici de témoignage oral du futur baptisé avant le baptême. Bon, il y avait des milliers de personnes qui se faisaient baptiser. Est-ce qu'ils ont pris le temps de donner l'occasion au futur baptisé de dire son témoignage, de confesser oralement le Christ? Et c'est ce que la parole de Dieu demande. Regardez en Romains chapitre 10, verset 9, je vous le lis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la foi, ça va passer par la confession orale qui va amener jusqu'au baptême. Et le baptême, avant tout, c'est une affaire individuelle, frères et sœurs. Quand bien même plusieurs, comme c'était le cas, plusieurs milliers se faisaient baptiser en même temps, eh bien le baptême, c'est avant tout une affaire de foi individuelle, personnelle. On ne va pas demander à ton voisin, alors toi, comment tu fais? Non, c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de tout un chacun qu'il veut bien toucher. Je vous invite à suivre la suite du texte. On a toujours Philippe dans le récit. Et cette fois, on est dans un autre contexte. Il n'y a pas ici de foule. Il est question d'un homme. Philippe va entrer en contact avec un homme qui est l'eunuque éthiopien. Donc je reprends à partir du verset 26 et je lirai jusqu'au verset 40. Donc acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouvait dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Mon deuxième point, alors mon premier c'était le baptême ne change pas le cœur. Mon deuxième point, le baptême, c'est le signe extérieur de la foi intérieure qui sauve. Le baptême, c'est le signe extérieur de la foi intérieure qui sauve. Ici donc, une autre personne entre en scène, c'est l'eunuque éthiopien. Donc un haut fonctionnaire de la reine, et il était venu à Jérusalem, il a entendu parler de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Il est venu à Jérusalem pour adorer, nous dit le texte, verset 27. Mais il n'était pas encore chrétien, il était en recherche. Et il cherchait au bon endroit, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Certainement qu'il avait ramené ses rouleaux de Jérusalem. Et donc, de retour vers son pays, eh bien, il lisait à haute voix un passage de la Bible qui est une citation du prophète Ésaïe. Puis Dieu lui a envoyé l'apôtre Philippe, alors qu'il était en train d'évangéliser la Samarie. Philippe a obéi. Il n'a pas demandé son reste, Philippe. Il n'a pas demandé d'explication. Dis-moi à quelle heure, par où je dois passer, pourquoi tu m'envoies là-bas. Il a obéi immédiatement à la voix de Dieu, pour apporter le Christ, non pas à 3000 personnes cette fois, mais à une personne. Il a obéi pour apporter l'évangile à une seule personne, parce que une seule personne qui se convertit peut faire la différence et en amener beaucoup d'autres au Seigneur. Alors, il n'a pas demandé d'explication sur sa mission, et vous avez remarqué, Dieu, par le Saint-Esprit, le guide au fur et à mesure qu'il avance. Il a fait le premier pas, il a obéi, sans trop savoir, et puis, l'Esprit lui a dit, avance vers ce char. Il ne lui a pas tout donné d'un seul coup. Alors, il y a une application pour nous qui sommes chrétiens. L'obéissance. Comme Philippe a obéi au commandement du Seigneur, si on se met à la disposition du Seigneur, eh bien, n'en doutons pas, il organisera des rendez-vous divins. Des rendez-vous divins avec des personnes qui le cherchent. De même que le Saint-Esprit a guidé Philippe, il nous guide vers les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et pour ceux, s'il y en a qui écoutent, qui ne sont pas encore chrétiens, eh bien, si vous cherchez sincèrement le Seigneur, il se laissera trouver. Et vous le trouverez. Et vous le trouverez. Ce texte est là pour nous. Pour nous. Nous le confirmer. Alors Philippe engage la conversation. Il a entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui demande alors, comprends-tu ce que tu lis, verset 30 ? L'eunuque aurait pu répondre, de quoi te mêles-tu ? Il est tranquillement en train de lire. Mais non. L'eunuque Il a reconnu son besoin d'être guidé et d'être aidé. Et que fait-il ? Il invite Philippe à venir monter, à venir s'asseoir à côté de lui sur son char. Et là, eh bien, imaginez, les deux sont assis côte à côte, ça a facilité, n'est-ce pas, les échanges. Sans s'imposer. Il y a une autre application pour nous, chrétiens, eh bien, c'est que sur la manière de témoigner, d'évangéliser, eh bien, de poser une question, c'est souvent une bonne prise de contact, une bonne façon d'établir le contact avec la personne. Parce qu'on ne se met pas au-dessus de lui. Il n'y a pas de condescendance. On pose une question. Jésus utilisait cette manière de faire. Le message de l'Évangile doit toujours être adapté aux connaissances et à l'attente des auditeurs. Ça veut dire prendre du temps de voir où est-ce qu'il en est, l'auditeur. Alors là, c'est clair, les deux sont côte à côte, Philippe et l'Éthiopien, et il est clair que le terrain était préparé pour aller plus loin avec l'Éthiopien. Il était en recherche, il avait soif. Et Philippe va aller plus loin, il va lui expliquer le passage d'Ésaïe qu'il lisait, c'est une citation de Ésaïe 53, versets 7 et 8. Je relis donc le passage dans Actes. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est supprimée de la terre. Donc c'est à partir de ce texte que l'eunuque va poser une question à Philippe. De qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Verset 34. Sur sa question, Philippe va lui annoncer l'évangile. La porte est grande ouverte pour Philippe pour annoncer l'évangile de Jésus. Pour répondre à sa question. Et effectivement, on dit souvent que le livre d'Ésaïe, c'est le cinquième évangile. Le livre d'Ésaïe parlait prophétiquement de Jésus quelques 700 ans avant sa venue, sans le nommer. Si vous lisez Ésaïe 53, c'est le portrait du Seigneur Jésus. C'est une bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ah bon, c'est une bonne nouvelle d'emmener quelqu'un à la boucherie ? Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Qui s'est laissé crucifier pour payer le prix de nos péchés. Alors l'Éthiopien a entendu l'explication de Philippe et il prend l'initiative, c'est lui qui prend l'initiative, de demander à Philippe s'il y a quelque chose qui l'empêcherait de se faire baptiser. Philippe ne lui a pas répondu « Attends, tu n'as pas encore lu toute la Bible. » Il ne lui a pas dit non plus « Attends, tu n'as pas encore, attends d'avoir tout compris. » Il ne lui a pas d'avoir tout compris tout ce que dit la Bible. Il ne lui a pas non plus dit « Attends d'être devenu parfait ». Non. Il lui a répondu « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Suite à ceci, l'eunuque va faire une confession de foi des plus simples. mais suffisante pour que Philippe le baptise. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 37. Alors, ça, c'est quand même, ça a été précédé quand même de l'explication. Philippe a donné une explication à l'eunuque, et l'eunuque a répondu à l'annonce de l'évangile de Philippe. Et il a confessé sa foi. Et c'était suffisant. Vous voyez le contraste. Autant avec Simon, c'était trop rapide son baptême. Il n'avait pas tout compris. Autant ici, et on n'a pas entendu de confession de foi de la part de Simon. Autant ici, on entend la confession de foi de l'eunuque éthiopien, toute simple. Et là, qu'est-ce qui l'empêche de se faire baptiser ? Mais rien. Il a confessé Christ. Eh bien, Philippe le baptise. Ça va très vite. Verset 37, Philippe reprit son chemin, guidé par l'Esprit, comme il l'a été jusqu'à présent, pour quoi faire ? Pour évangéliser les autres villes. Et là, que se passe-t-il ? L'Éthiopien ne le vit plus, mystérieusement. Il a été enlevé par l'Esprit, le Philippe. Pourquoi cette disparition subite ? Vous avez remarqué, Simon le magicien, il s'était attaché à Philippe, à cause des miracles qu'il faisait. Il ne quittait plus Philippe. Or là, l'eunuque éthiopien n'a pas le temps de s'attacher à Philippe. L'Esprit l'a enlevé. Pourquoi cette disparition ? Pour que l'Éthiopien s'attache, non pas à Philippe, mais au Seigneur Jésus. Et ça a marché, il n'était pas triste. Philippe est reparti pour la suite de sa mission, et que nous dit le texte ? L'Éthiopien est reparti tout joyeux. Il est reparti avec la joie du Seigneur, et c'est la joie du Seigneur. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, je vous le relis. Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est le fruit de l'Esprit. Et donc, Dieu avait un plan. Pourquoi cet Éthiopien ? Eh bien, on peut penser que l'Éthiopien, il a apporté l'Évangile dans son pays, en Éthiopie. On sait que cette région du monde a été christianisée très tôt. Et l'Éthiopien, c'était un haut fonctionnaire de la reine Candace. Et certainement qu'il avait une influence sur le pays, sur les autorités. Voilà donc l'Évangile qui se répand en Samarie et au-delà, on peut croire, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'était le plan de Dieu. Alors, ce deuxième texte, qu'apprenons-nous encore sur le baptême ? Sur ce texte-là, à partir de ce texte. Alors, mon troisième point, alors, je vous rappelle, le premier, c'est que le baptême ne change pas le cœur. Le deuxième, le baptême est le signe extérieur de la foi intérieure qui sauve. Et troisième point, le baptême est la ratification, la signature. C'est la ratification de notre conversion et de notre engagement à suivre le Seigneur. J'aimerais développer ça. C'est la ratification de notre conversion et de notre engagement à suivre le Seigneur. On a vu précédemment que le baptême n'est pas un sacrement magique. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, ce n'est pas non plus un certificat de vie chrétienne victorieuse. Fais-toi baptiser, tu vas voir, tu n'auras plus jamais de chute. Non, ce n'est pas ça. Simon le magicien en est bien la preuve. Il a fait. Le baptême n'est pas un certificat qu'on ne va plus faire de faux pas. Ici, dans notre texte avec l'Éthiopien, on voit que la seule lecture de la Bible, très importante, c'est vital, mais la seule lecture de la Bible ne suffit pas pour être sauvé, pour être pardonné de nos péchés. Jésus avait commencé un travail chez l'Éthiopien, quand il lisait la parole de Dieu, à partir des Écritures. Mais les questions de l'Éthiopien montrent bien qu'il connaissait rien, il ignorait tout de l'Évangile. Qui n'a pas empêché de se faire baptiser, quand il a compris qui est Jésus et ce qu'il a fait. Il lisait l'Écriture, et en Luc, chapitre 24, il nous est dit que toutes les Écritures parlent de Jésus. Toutes, de Genèse à Apocalypse, qui est écrit après, toutes les Écritures pointent sur une personne qui est Jésus-Christ. Et effectivement, Jésus-Christ, donc le seul sans péché qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Et effectivement, le livre des Actes, encore chapitre 4, verset 12, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Les Écritures pointent sur une seule personne, sur Jésus. Alors c'est quoi finalement, pourquoi le baptême ? Avant de répondre à cette question, de continuer de répondre à cette question, Tertullien, c'était un des pères de l'Église, hein, dans l'Église primitive, il a écrit « On ne naît pas chrétien, on le devient. » Alors si vous venez d'une famille catholique, comme c'est mon cas, j'ai compris après que ce n'est pas mon baptême qui m'a sauvé. Non, on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est donc un choix, devenir chrétien, c'est une décision, une adhésion personnelle, non pas à une organisation, non pas même à une doctrine, mais à une personne qui est Jésus-Christ. Alors, pourquoi le baptême si le baptême ne sauve pas ? Eh bien, il y aurait beaucoup à dire sur le baptême, mais en tout cas, voilà. Le baptême, c'est avant tout la rencontre de deux paroles. Quand on se fait baptiser, il y a la rencontre de deux paroles. Premièrement, là, il y a la parole de Dieu qui déclare sauver celui qui place sa confiance en Jésus-Christ. Et l'autre parole, c'est la nôtre. En réponse, notre parole déclare au moment du baptême notre foi dans le sacrifice de Christ, notre repentance et notre engagement à servir, à suivre le Christ ressuscité. On voit donc la foi précède le baptême. C'est donc la rencontre de deux paroles. Et puis vous vous rappelez, selon l'ordonnance, le baptême est une ordonnance du Seigneur Jésus qui a dit « Baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc le baptême se fait non pas seulement au nom de Jésus, non pas seulement au nom du Père, non pas seulement au nom du Saint-Esprit, mais au nom du haut nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il se fait au nom du Dieu trinitaire. Quel est le rôle du Père ici, dans le baptême ? Eh bien, par le baptême, le croyant témoigne publiquement qu'il a cru à Dieu le Père lorsque celui-ci a rendu témoignage à son Fils lorsqu'il s'est fait baptiser, lorsque Jésus s'est fait baptiser. C'est prendre Dieu au mot. Puisque Dieu a rendu témoignage à son Fils, quand on se fait baptiser, on est d'accord avec le Père. On est d'accord avec lui. Je vous relis en Matthieu 3, verset 17, lorsque Jésus s'est fait baptiser. Voici ce qu'il est écrit, Matthieu 3, 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était au moment du baptême de Jésus. Jésus lui-même s'est fait baptiser, mais il n'avait pas de péché, il était le seul sans péché, le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser ? En se faisant baptiser, Jésus montrait son obéissance au Père. Et c'était un exemple à suivre pour nous. Parce que le baptême, c'est en effet le premier acte d'obéissance du croyant envers Dieu, quand on a cru en Jésus. C'est le premier acte d'obéissance, le baptême. Ce qui précède le baptême, c'est le changement de cœur par la foi. Et quand on se fait baptiser, c'est le signe extérieur qu'on est devenu une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Il faut se considérer comme une nouvelle créature que Dieu a faite. Et le croyant, le chrétien en tout cas, eh bien, il désire rompre radicalement avec sa vie passée. Il doit se considérer comme étant mort au péché par identification à Christ qui est mort pour nos péchés. Et c'est ce que le baptême représente. Le baptême, il y a l'immersion du baptisé, l'immersion dans l'eau représente cette mort à soi-même. Et c'est comme ça que nous devons nous considérer comme étant morts au péché. Et nous le manifestons par le baptême, signe extérieur de ce qui s'est passé dans le cœur. Et lorsqu'on ressort de l'eau, alors, on n'est pas seulement mort au péché, on est aussi pardonné. Pardonné grâce au sacrifice de Christ. Le croyant reçoit par la foi le pardon de ses péchés, par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ. Et ce pardon, il est attesté par quoi ? Par la résurrection. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous pouvons être sûrs que tous nos péchés sont pardonnés. Le prix payé a été suffisant. Et lorsque nous ressortons de l'eau, lorsque le baptisé ressort de l'eau, et bien c'est, on appelle ça l'émersion, l'émerge de l'eau. L'émersion représente l'identification du croyant avec le Christ ressuscité. Et aussi le début d'une vie nouvelle par son union avec lui, par le Saint-Esprit. Une vie nouvelle qui vient de Dieu. On meurt à soi-même, on le représente en étant immergé, et on ressort. On meurt, on s'identifie à la mort de Jésus, et on ressort de l'eau, on s'identifie à la résurrection de Jésus. Pour nous, nous sommes pardonnés, et nous, il y a un nouveau départ, une nouvelle vie avec lui. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, baptême par aspersion, par immersion. En tout cas, ici, il y a quand même une expression qui nous fait, je crois, au baptême par immersion, hein, puisque c'est tout ce symbolique, c'est lorsque on considère qu'on est immergé et on ressort. L'immersion représente la mort au péché. Il y a une expression qui nous dit que, au verset 39, nous dit que Philippe et l'Éthiopien ressortirent hors de l'eau. Donc ils étaient dans l'eau. Ils étaient dans l'eau. Ils sont ressortis hors de l'eau. Ce n'était pas une simple aspersion. Je trouve que dans l'Épître aux Romains, il y a vraiment toute l'explication du baptême en ce qui nous concerne. Romains 6, et je vais lire les versets 3 à 5, qui reprend bien, qui explique très bien ce qu'est le baptême. Romains 6, 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est ce que signifie le baptême. Le baptême, c'est donc le signe visible d'une alliance. C'est une alliance que le baptisé fait avec Dieu, que Dieu fait avec le baptisé. Le baptême, c'est le signe visible d'une alliance de grâce entre Dieu et le croyant. Il y a la part de Dieu et il y a la part du croyant. Quelle est la part de Dieu ? Eh bien, le salut, le pardon, la promesse et le don du Saint-Esprit, ça c'est l'œuvre de Dieu. Le croyant, quant à lui, eh bien, quelle est sa part ? Il s'engage à suivre le Seigneur, à servir Dieu et son prochain. Il s'engage, et le baptême, c'est un engagement. L'engagement aujourd'hui, c'est pas très populaire, aujourd'hui, l'engagement, on voit bien que notre société manque terriblement d'engagement, de personnes sur qui on peut se fier. Pourquoi on s'engage ? Parce qu'on aime la personne, on veut lui être fidèle. Et aujourd'hui, l'engagement fait défaut beaucoup, beaucoup, dans notre société, et parfois aussi, on peut trouver dans l'Église une peur de s'engager. Parfois. Mais quand on considère ce que c'est que l'engagement, qui dit alliance dit engagement à quoi ? À rester fidèle. À rester fidèle, du moins à vouloir le rester, à avoir le désir de rester fidèle. Et on voit le parallèle avec l'engagement dans le mariage. Le parallèle, il est voulu, il est dans la Bible. Hein. L'Église est appelée l'épouse de Christ, en Apocalypse 21, verset 9. Et le parallèle avec le mariage. Et quand on aime, on veut suivre le Seigneur, on veut le Seigneur, et quelqu'un qui se marie, ben voilà, il s'engage. Une promesse de fidélité l'un à l'autre. N'ayons pas peur de l'engagement, parce que c'est un signe qu'on aime, qu'on veut rester fidèle. Et puis, un engagement, il se ratifie. On signe. Et on signe devant témoins. Eh bien, dans cette alliance, l'alliance de grâce du Seigneur, la nouvelle alliance en Christ, les deux parties, le baptisé et Dieu, signent leur engagement devant témoins. Le nouveau chrétien qui, eh bien, il va signer dans son cœur, ce qui s'est passé déjà dans son cœur, comment est-ce qu'il va signer ? En se faisant baptiser. Le baptême, c'est la ratification de sa conversion. De sa conversion qui s'est passée avant son baptême. Qui s'est passé en privé avec le Seigneur. Et la Bible nous dit bien que le baptême, c'est un engagement. C'est un engagement responsable d'une conscience sincère devant Dieu, d'avoir bonne conscience devant Dieu, et aussi devant les frères et sœurs de l'Église. Je lirai 1 Pierre 3,21 qui parle bien de ce que c'est cet engagement. Que le baptême est un engagement. 1 Pierre 3,21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement, on s'engage, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on ne va jamais faillir, mais on veut rester fidèle, on s'engage. Pourquoi ne pas avoir peur de l'engagement? Parce que dans un engagement, il y a deux parties. Il y a les deux qui s'engagent. Le baptisé s'engage à suivre le Seigneur, mais Dieu, il s'est engagé aussi. Dieu, il a signé aussi. Et comment est-ce qu'il a signé? Par son sang. Par son sang. Dieu lui-même s'est engagé, il a déjà signé son engagement d'être toujours avec nous par le sang de Jésus qui a initié cette nouvelle alliance. Alors on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, Dieu est avec nous. Il s'est engagé lui aussi, et il ne faut pas l'oublier de l'équation. Il s'est engagé. Et puis aussi, le croyant, on ne s'engage pas tout seul avec le Christ. Bien sûr, il y a les autres frères et sœurs. Le baptême, c'est aussi le signe visible de son entrée dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que le baptême se fait devant l'Église. C'est pour ça qu'on veut se réjouir, parce que l'Église accueille un nouveau membre dans la famille de Dieu. Visiblement. C'est ce qui fait aussi la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, donc le peuple d'Israël, les Juifs faisaient partie du peuple d'Israël uniquement de par leur naissance. Ils venaient de telle et telle tribu. Donc d'office, celui qui naissait de telle tribu d'Israël, il était dans le peuple d'Israël. Sous la nouvelle alliance, c'est différent. C'est une décision personnelle de vouloir rentrer dans la famille de Dieu. Et il y a une confession de foi que j'ai relevée, c'est M. Thomas Elwes qui l'a écrite en 1611 et qui, je trouve, dit bien ce que c'est que l'Église en rapport avec le baptême. Je vous le lis, sa confession, c'est sur trois lignes. L'Église de Christ est une compagnie de fidèles, séparés du monde par la parole et l'Esprit de Dieu, unis au Seigneur et les uns aux autres par le baptême sur la confession de leur foi et de leur péché. Et je trouve que ça reprend bien la place du baptême dans l'Église. Le baptême marque aussi le service. Le baptême initie le service du croyant. Et tous les croyants ont part au service de Dieu, tous, pas seulement les responsables, tous les croyants. Et le baptême marque aussi initie l'entrée du croyant à servir Dieu et son prochain, à servir. C'est comme ça qu'on doit se considérer, nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Et nous n'avons pas reçu le même service, pas forcément. Alors, eh bien, ce texte, le baptême, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour le baptisé, c'est une bénédiction pour l'Église. On veut vraiment se réjouir avec les baptisés. Et l'Éthiopien, il en est la marque, puisqu'il est reparti tout joyeux. Je vais terminer par la prière. Père Saint, je te remercie encore pour ces textes. Je te remercie parce que toi, tu t'es engagé, Seigneur, tu as fait le premier pas, Seigneur. Tu as tenu ta promesse d'envoyer Jésus. Il a déjà signé, Seigneur, par son sang, cet engagement, à être toujours avec nous, Seigneur. Et nous, eh bien voilà, tu attends la réponse de tout à chacun. Seigneur, beaucoup ne sont pas encore rentrés dans ta bergerie, beaucoup qui ne connaissent rien de toi, comme c'était le cas de l'Éthiopien, beaucoup de l'extérieur. Et Seigneur, nous te demandons de te révéler et que nous, qui sommes l'Église, nous soyons eh bien, des canaux entre tes mains pour pointer vers toi, Seigneur Jésus, pour que les gens te voient et aient envie d'aller à toi et de s'engager avec toi. Merci Père, parce que tu nous as donné non seulement le salut en Jésus, le pardon de nos péchés, mais tu nous donnes aussi le Saint-Esprit qui nous rend capables, Seigneur, de vivre une vie qui t'honore, qui te plaise. Merci Père de nous garder, même si les temps sont durs. Mais tu reviens bientôt, comme on l'a chanté ce matin, et comme ta parole le dit, Seigneur. Alors aide-nous à t'attendre fidèlement et à être à notre poste, chacun où tu nous places, Seigneur, pour être tes flambeaux, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.